quelque chose qui fonctionne bien au départ. C'est un peu bourrin ce que je vais dire. Pas trop se poser de questions. Faut avancer, faut être discipliné et rigoureux. Faut suivre le plan en fait. Je fais mes posts, je trouve mes clients, je délivre. Ça c'est important. Pas trop se poser de questions sur ah mais si, mais pourquoi.
Salut, je suis Thibaut Fourcade et je vous présente From Scratch, un podcast dans lequel j'invite des entrepreneurs aguerris à partager leur expérience en leur demandant ce qu'ils feraient ou non s'ils devaient recommencer un projet From Scratch. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de me mettre une note 5 étoiles et de me laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous appréciez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste de LinkedIn. C'est la première fois, donc je suis très content. Et donc, je reçois Mathieu. Salut Mathieu.
Hello Thibaut, merci beaucoup pour ton invitation. Très cool de pouvoir passer ce moment tous les deux aujourd'hui.
Bah, merci beaucoup de prendre ton temps. Je sais que tu es de court passage sur Paris, donc on book tous les rendez-vous comme on peut.
C'est vraiment gentil, très cool.
Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens?
Écoute, avec grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans. Je suis né à Nîmes, dans le sud de la France. Je suis d'origine normande et bretonne. Donc tu vois, l'idée, c'est que j'ai pu côtoyer différents milieux, que ce soit des grandes villes, des villages, tu vois, la vie rurale ou des banlieues où était mon lycée. La chance de ma vie, ça a été d'intégrer l'EDEC à Nice, où j'ai compris pas mal de choses. Pendant mes études, j'ai commencé à bosser un peu sur le sujet LinkedIn. Parce que j'en avais besoin et en fait j'ai commencé en tant que freelance à accompagner des dirigeants sur leur communication, sur les accompagner sur LinkedIn. Et donc voilà, donc j'ai continué. Un peu plus tard, Linker que je développais a rejoint une autre boîte qui s'appelle Kudak.
D'accord, ouais.
Tu connais peut-être Théo Lyon, le CEO de mon associé que j'embrasse. Guillaume et Paul aussi, sinon ils vont être jaloux. et donc voilà, aujourd'hui, ça fait un an donc que vraiment j'ai commencé à accélérer, enfin qu'on a commencé à accélérer sur Linker. On est aujourd'hui 11 dans l'opérationnel dans l'équipe. Et voilà, on a accompagné de centaines de clients, de clients qui vont de freelance jusqu'à une boîte du CAC 40 en passant par des scale-up, des start-up, des agences. Et donc, très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de créer Linker? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a poussé à la sortie de tes études d'aller là-dedans? J'ai bien compris que tu faisais un peu de freelance, mais...
Alors, en fait, il faut repartir un peu avant.
Ouais.
Je faisais un stage dans le conseil à Monaco, qui me plaisait plutôt pas mal, c'était cool, c'est une chouette expérience. J'embrasse Corinne, mon ancienne boss, si elle écoute. Et en fait, moi, tu vois, j'avais pas trop de réseau. Et ce que je voulais faire en stage de fin d'études, c'était bosser en tant que sales dans la tech. Tu vois, je voulais bosser dans les belles boîtes tech, je voulais faire un max d'argent en étant sales, tu vois. Je me dis, ça a l'air pas mal, ça a l'air cool, on va partir à Dublin, tout bon, ok. Et le problème, c'est que j'avais pas de réseau. Et donc en fait quand t'as pas de réseau, t'as pas 36 solutions, il faut le créer quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à networker sur LinkedIn, à envoyer des messages, à prendre des calls. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai un Excel d'une trentaine de top sales de la tech, Microsoft, Dublin, Google, New York, qui sont en fait à me référer dans les boîtes. Et donc là, tu vois, j'ai un premier truc où je me dis, ah putain, c'est bien quand même cet outil, tu vois.
Et quelque chose à faire.
Ouais, je me dis franchement, okay, je suis no-bot, tu vois, c'est cool. Bon. Et en fait, pendant que je suis dans ce stage à Monaco, tous les midis, je m'intéresse un peu du coup à LinkedIn, tu vois, je regarde ce qui se passe, les posts, comment ça fonctionne, je regarde des conférences, je regarde à l'époque Germinal, tu vois, sur LinkedIn, qui est en train de tout casser avec Jordan, qui fait Inexpugnable, qui avait un podcast. C'est là d'ailleurs pour la première fois que je vois Théo, qui venait expliquer comment il faisait un petit masterclass Facebook Ads. Et donc, tu vois, je m'intéresse au sujet, et puis de fil en aiguille, vu quand pendant une heure tous les jours, tu regardes un truc, au bout d'un moment donné, tu commences à pas comprendre comment ça fonctionne. Et je commence un peu, tu vois, à publier, et puis je commence à vendre des trucs par-ci, par-là. Alors, je suis à l'EDEC, tu vois, et moi, je donnais des cours d'anglais, je distribuais des flyers dans la rue des fois pour, tu sais, genre la SNCF, tu vois, le truc, je gagnais 10 balles de l'heure, j'étais content. J'ai un peu poker aussi. Mais tu vois, en fait, là, je commence à vendre par-ci, par-là, des petites formations. Je vais t'aider à trouver un stage, je vais faire ci, ça. Et à un moment donné, je voulais gagner plus d'argent. Je trouvais que je pouvais en gagner plus. Ouais, je commençais à gagner 50, 100 euros par mois, 200 euros par mois. J'étais très content. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, écoute, mon coco, il n'y a pas 36 possibilités. Il faut que tu fasses plus d'argent. Parce qu'à un moment donné, tu vas pas envie de vivre de ça. J'ai besoin de gagner un peu plus d'argent. Et donc, ce que je fais, c'est que je me dis, c'est qui la population à l'EDEC qui a le plus d'argent? Bon, en fait, c'est... alors, c'est pas toutes, mais il y en a beaucoup. C'est notamment les étudiants qui vont en finance, et encore plus, ils sont étrangers.
D'accord.
Parce qu'en fait, s'ils sont étrangers et qu'ils viennent à l'EDEC, souvent, c'est qu'ils viennent de familles qui ont un peu d'argent.
Mm.
Et donc, je scrape les listes d'un club finance l'EDEC et je vends une formation à un ancien membre qui est d'origine indienne, qui bosse dans un fonds de private equity en Suisse, et je lui vends une formation LinkedIn, tu vois. Et je lui vends une formation LinkedIn, 3 heures, les 150 euros. Attends, j'étais comme un ouf, tu vois. Je le fais en anglais et tout, nickel, le mec est content, bon, top. Et donc, je continue, j'en parle partout autour de moi, je saoule tout le monde. Et j'arrive à vendre lors d'un repas à la mère d'un pote qui est DRH d'une communauté de communes une formation à 450 euros les 3 heures.
Pas mal.
Et tu vois, maintenant dans ma tête, c'est dingue, tu vois. 450 euros en une après-midi.
Ouais.
Complètement fou. Donc là, je comprends un peu ce que c'est. Enfin, je comprends qu'on peut gagner de l'argent, tu vois. C'est cool et tout. Et en fait, ça vient l'été 2021. Pour des raisons perso, il faut que je gagne un peu plus d'argent cette fois-là.
Ouais.
Parce que là, ça serait bien que je commence à pouvoir m'assumer réellement. J'en ai vraiment besoin. Et bien, ce qui se passe, c'est assez simple. J'optimise mon profil LinkedIn. Je marque que je suis ghostwriter, que j'écris des posts pour les dirigeants. Je l'optimise, comme je l'avais vu fait par tant d'autres avant.
Mmh.
Je scrape la base de données du podcast de Mathieu Stéphanie.
Ouais.
Alors, je trouve tous les noms, machin. Je les ajoute tous sur LinkedIn. Parce que j'aimais beaucoup Génération de Voiture, ça.
Ouais.
Et ce que je fais, c'est que j'envoie tous un message. Tous les gens qui sont passés, je me dis de toute façon, c'est pas compliqué. Ces gens-là, c'est des gros CEO, ils ont besoin de com. LinkedIn, ce n'est pas utilisé.
Mm.
Je vais écrire des posts pour eux.
Ouais, ou mal, en tout
j'ai
cas.
Des skis, je peux le faire. Ouais. Après, 2 ans en arrière, il n'y avait personne sur LinkedIn. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2 ans,
ouais.
Moi, ça fait 1 an et bientôt 2 ans que j'écris tous les jours. Mais il y a plus de 2 ans, mais il n'y avait personne.
Mm.
Et donc, je suis en mai 2021, je shoot mes messages, je fais 5 calls, j'en close 3, et je commence comme ça.
Génial.
Je suis freelance, là, je suis encore en étude, et donc, je finis après mes 6 mois d'EDEC, bachelor en 4 ans, et mon stage de fin d'études, je le fais dans ma propre boîte, et après, voilà. Et donc, c'est pour ça que janvier 2022, c'est vraiment le moment où j'ai pu m'y dédier à 100%,
mmh.
Et donc là, tu vois, ça fait 1 an. Qu'on a commencé à accélérer et à développer, quoi.
Ouais, génial. Alors, j'ai pu voir que vous aviez fait une fusion donc avec Link, donc une autre agence qui est un poil différent de la proposition de valeur que vous faisiez pour justement mutualiser un peu vos forces. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais, tout à fait. Alors, on embrasse bien sûr le bon Hugues, Hugues Trigias, mon frérot, je t'embrasse fort. Non, bah en fait, très simple. Moi, je commençais dans mon coin freelance et j'avais toujours suivi Hugues, ce qu'il faisait avec Link. Il avait vendu une première boîte. Et en fait, je trouvais ça top. Ça a été un des précurseurs sur les sujets d'accompagnement de dirigeants, ghostwriting et d'influence sur LinkedIn. Mm. Et en fait, c'est surtout ce deuxième volet que Link avait une grosse expertise.
Ouais.
Et des beaux use cases. Et tu vois, l'influence sur LinkedIn était assez balbutiement. Il y avait eu une grosse campagne qui avait été très république à l'époque. Et là, on est encore au tout début, hein, tu vois, à l'heure où je te parle. Et donc, en fait, par rapport à ça, à un moment donné, effectivement, Hugues avait aussi d'autres activités. Et on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire pour que, effectivement, on intègre Link à Linker et donc qu'on puisse développer notre département influence ensuite, tu vois.
Ouais. Et ça, c'est arrivé quand, à peu près, en termes de temporalité vis-à-vis de Linker?
Ça, c'est une bonne question. J'ai peur de dire une bêtise. Mais il me semble que c'est été 2022.
D'accord.
Je suis presque sûr que c'est été 2022. C'est juin ou juillet 2022. Donc ouais, c'est plus ou moins récent. Parce que forcément, quand t'as une boîte qui a 1 an, qui est notre cas...
Tout va vite.
Est-ce que c'est récent ou pas? Moi, ça me paraît très loin. Ouais. En même temps...
Oui.
Ça dépend du cadre spatio-temporel que tu as.
Carrément. Et donc après, vous avez rejoint ou plutôt été racheté par la structure, enfin, on va dire l'agence Koudak, avec notamment Théo Lyon et ses équipes.
Alors ça, c'était avant.
D'accord, ok.
C'était en fait, tu vois, dès janvier.
Ouais.
En fait, je peux te raconter l'histoire si tu veux.
Ouais, grave.
Mais c'est un truc un peu fou. Moi, je suis en fait étudiant à l'EDEC. Voilà, j'ai mon business, tu vois, sur Linker. Je peux en vivre, ça se passe bien, tranquillement. J'ai une ou deux personnes qui m'aident sur certains sujets, et en fait j'explique à mon école que j'embrasse que effectivement je veux faire un stage de fin d'études, et en fait je me rends compte que voilà, il y a 2-3 choses dans le process où je vais pas pouvoir répondre positivement, et donc ce que je fais, c'est simple, c'est que je me dis écoute, il y a pas de problème, je vais postuler à des stages. Et donc je postule dans 3 boîtes et je continue mon business à côté.
Ouais.
Et donc c'est ce que je fais, en fait je postule à 3 boîtes dont Koudak, Et en janvier, en fait, je commence en fait à bosser pour Théo concrètement en stage.
D'accord.
Pour valider mon diplôme. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'aide sur LinkedIn, en fait.
Mmh.
Moi, j'arrive, en fait, je parle à Émilie, donc, qui est notre RH que j'embrasse. Et donc, en fait, il dit, écoute, moi, je bosse déjà pour telle boîte, je te suis depuis très longtemps, je peux décrire tes postes, et ça va te coûter 800, et que ça te coûte 8000, quoi.
Mmh.
J'en écrivais pour lui tous les jours, tu vois.
Ouais.
Et donc, on commence comme ça, et au bout d'un moment, on se dit quand même que c'est un peu dommage, et que c'est peut-être quelque chose de mieux à faire.
Mmh.
Et donc là, c'est là où, en fait, on s'est mis d'accord sur un deal assez rapidement, où j'ai cédé la marque. Du coup, Linker est une marque du groupe Poudac,
ouais.
Et où moi, je suis rentré dans l'actionnariat de Poudac. Et donc voilà, tu vois, et c'est après qu'on a développé le département influence avec Link, et c'est Alix qui lead désormais le sujet chez nous.
Ok, maintenant que vous faites partie donc de Koudak avec Link et Linker, quel est un peu l'impact de Koudak dans votre activité? Qu'est-ce qui a changé en termes de prise de décision, de fonctionnement, d'organisation?
C'est une très bonne question. Alors, faut comprendre que quand moi je discute avec effectivement avec Théo, moi l'intérêt je le vois tout de suite. Il y en a plusieurs. Grand 1, l'enjeu numéro 1, c'est de me permettre d'accélérer beaucoup plus vite, de pouvoir structurer une équipe à côté de moi, de me concentrer sur l'opérationnel, avec une équipe admin qui va pouvoir m'aider au quotidien.
Ouais.
C'est, tu vois, Lorenzo et Émilie sur la partie recrutement. C'est Agathe et Elodie sur la partie finance facturation. C'est aussi à l'époque, parce que maintenant on commence à internaliser les sales dans chaque BU, mais c'était aussi un appui sur les sales, etc. Et donc forcément ça, quand t'es entrepreneur et que tu dois gérer ta factu, tu sais pas par où commencer en les recrutement, etc.
T'es au four au moulin, tu te perds.
Et ça me permettait d'aller beaucoup plus vite.
Ouais.
J'avais pas à gérer tout ça, en fait. Et quand tu te concentres que sur je délivre, je trouve des clients, je recrute, tu peux aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la première chose, tu vois, qui est assez claire. Le deuxième sujet, c'était forcément du mentoring. Puisque moi, en fait, tu vois, Théo, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, mais c'est un peu différent sur plein de sujets, me montrait, tu vois, des angles morts, notamment au tout début de l'aventure, en fait, sur mon business et même les autres associés, ou voire même les autres membres de l'équipe Koudak, sur des choses que je ne voyais pas, parce que j'étais focus, tu vois, sur mon opérationnel. Il y avait des choses que j'arrivais pas à comprendre. Tu vois, c'est des trucs cons, mais c'est des trucs de contrat, des problèmes de BFR entre le temps que les clients me payent, etc. Sur les recrutements et tout. Donc, en fait, le sujet du mentoring, il est super important parce que j'ai pu, en fait, bénéficier de toutes les erreurs qu'on peut faire, tu vois, Théo et toute l'équipe Koudak. Et donc, en fait, pour les anticiper.
Ouais.
Ça peut paraître un poil bullshit, mais fais-moi confiance que ça se compte, je pense, en au minimum en dizaines de milliers d'euros.
Ouais.
Et je pense que ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros en termes de valo, etc.
C'est
vraiment... Il y a des décisions, des conseils, des choses que j'ai comprises où tu gagnes des années, en fait.
Ouais, ouais. Puis c'est une expérience de vie, quoi. Un mentor, c'est vraiment génial. C'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi aussi. Et moi qui veux effectivement me lancer aussi dans l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose que je cherche, tu vois. Parce que ça me paraît effectivement tellement essentiel. Et j'ai la chance de pouvoir interviewer plein de CEO et bien m'en rendre compte par leur partage de leur expérience. Mais effectivement, et puis il n'y a pas trop une question d'âge ou c'est vraiment tout ce que tu as pu faire avant qui te permet d'être pertinent, quoi.
Exactement. En fait, tu vois, c'est marrant parce que mes premiers mentors, ça a été tous les dirigeants. Déjà, ça a été ton premier cercle. Donc moi, mes premiers mentors, ça a été des gens qui m'ont fait comprendre des choses à titre perso. Et le deuxième mentor que j'ai eu, ça a été tous les entrepreneurs que j'ai pu écouter sur des podcasts, où j'ai gagné des années. Mes deuxièmes mentors, ça a été mes associés avec qui on partage toujours et avec qui on avance mutuellement. Et je pense que mes quatrièmes mentors, c'est mes clients, en fait. Parce que tu vois, on fait aussi un job où notre métier, c'est de conseiller nos clients. Donc, on a des relations de confiance parce qu'on parle de plein de sujets différents, du très business au très perso. Et donc, quand tu bosses avec des gens qui ont 30 ans de plus que toi, 50 fois la taille de ta boîte, tu te calmes un peu, tu redescends et t'écoutes, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a de la chance de bosser avec des gens qu'on adore, qui sont nos clients. Mmh. Et donc, ça aussi, ça fait grandir. Quoi.
Ouais, c'est super important. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es toujours à la tête de l'exécutif de Linker, où tu as pris un peu plus de place au niveau de Koudak. Comment ça se passe?
Bah, en fait, si tu veux, alors c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis toujours la personne qui s'occupe de Linker, parce que c'est la boîte que j'ai fondée, et je pense être la meilleure personne aujourd'hui pour gérer le sujet, emmener l'équipe, tu vois, délivrer pour les clients, emmener avec la vision. Mais c'est vrai que de plus en plus... forcément j'ai la vision sur Koudak et que bah, tu vois il y a aussi des sujets où je peux apporter ma vision pour le groupe. Alors si tu veux, moi, mon rôle, tu vas rentrer dans le détail peut-être, il a beaucoup évolué puisqu'au début quand t'es seul bah, tu fais tout hein, comme son nom l'indique, là où après où t'es 5, tu vois, moi pendant un an là j'ai eu beaucoup d'opérationnel en plus de tout.
Okay.
Tu vois, là pendant les 12 derniers mois je gérais entre 5 et 10 clients en plus de recruter les finances, essayer d'accompagner l'équipe, tu vois, etc. Et où là, maintenant, je pense que où on est 11-12, une quinzaine, si on prend toutes les personnes tu vois, qui peuvent bosser de près ou de loin, je pense que mon job maintenant, il est vraiment de faire avancer la boîte sur des sujets structurants, trouver les bonnes personnes, trouver les clients, et qu'en fait, ma plus-value, en réalité, tu vois, aujourd'hui, j'ai que 2-3 clients en gestion et que ma vraie plus-value, là où je peux apporter le plus de valeur à la boîte, c'est vraiment dans trouver les bonnes personnes, avoir la bonne vision, aider mon équipe, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente mieux, qu'elle soit efficace, qu'elle soit aussi efficiente, c'est-à-dire qu'elle a optimisé, tu vois, les résultats. Et c'est un peu le job de, tu vois, qui va changer, je pense, un peu entre... 0 à 10 et 10 à je sais pas combien.
Ouais.
Sachant que ça évolue souvent. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, j'ai bossé sur le sujet formation. Bah, pendant un mois, j'ai été formateur, tu vois, coach. Peut-être que demain, ça va être sujet refaire le site internet. Bah, pendant 2 mois, je vais Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que je peux me focus sur des sujets qui font plus avancer la boîte.
Ouais.
Quoi.
Ouais, puis c'est varié en plus, tu n'es pas toujours...
Ouais, bah c'est aussi ça qui est cool quand t'entreprends, hein, c'est que, alors il faut aimer ça, mais globalement, ouais, tu touches à plein de sujets, voilà, qui sont assez passionnants, si tu les aimes. Et donc, oui, tu fais rarement la même chose.
Ouais.
Et en plus, on a un job, tu vois, notre métier, c'est de conseiller des dirigeants sur LinkedIn, rédiger leur post, qui fait qu'en fait, on est aussi amené à être face à des dirigeants complètement différents. Puisqu'entre le freelance de 23 ans... qui gagne bien sa vie, qu'on accompagne sur LinkedIn, et la dirigeante du CAC 40, tu vois qu'on a 55, c'est pas exactement la même manière de lui parler, la même manière de prendre les choses, de rédiger le post, d'être bon dans le contenu, d'avoir la vision pour son média. Donc ça aussi, c'est super. Tu vois, le job en lui-même est cool. Quoi.
Ouais, mais c'est clair. Et donc justement, au niveau du travail, l'exécutif, comment vous organisez? Est-ce que ça ressemble un peu à de la presse où vous allez discuter à plusieurs de la vision, vous planifiez sur un mois, ou est-ce qu'à chaque poste, vous faites un peu une revue collégiale? Comment ça se passe?
Alors nous, pour bien te situer, chez Linker, on a globalement 3 départements.
Ouais.
Le premier, c'est les consultants, les ghostwriters, qui conseillent, rédigent les clients. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Un gros call de kick-off. On va se mettre d'accord sur l'endroit où on veut aller.
Ouais.
Si on ne l'a pas déjà fait avant, avec une roadmap sur la partie sales. Et donc là, on va se mettre d'accord sur, OK, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, où est-ce qu'on veut aller? Ça dépend un peu en fonction du client et de ses besoins. On va définir la stratégie de contenu, on va parler des objectifs, on va prendre ses data actuellement, on va parler un peu de sa backstory, c'est-à-dire d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller. Une fois qu'on a fait ce gros call de kick-off, on va commencer à rédiger les posts, entre 1 et 3 par semaine, en fonction de la formule qu'il va choisir. Puisque LinkedIn a un peu changé en 2023,
Désormais
on a inclus de la créa, donc on va te faire entre 1 et 3 carousels par mois. Call de suivi une fois toutes les 2 semaines, donc entre 45 minutes et 1h30 de call, on va nous apporter des idées, challenger, te poser les questions, prendre un peu de ton jus de cerveau pour pouvoir écrire les posts, reporting des résultats à la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment sur la partie ghostwriting. On a aussi une partie community management où en fait, on va prendre ton compte, publier à ta place, liker, commenter, interagir avec ton réseau. On est en train de bosser aussi sur une partie prospection. Et le dernier, c'est donc l'idée par Alix, qui c'est l'influence en fait. Mmh. Là, le process n'est pas du tout pareil, puisqu'on n'accompagne plus des dirigeants pour construire la marque personnelle, mais on est plus sur des campagnes qui peuvent être et de court terme et de long terme, même si c'est vrai que beaucoup de use case qu'on a jusque-là, c'est le beaucoup de com vraiment, tu vois, ciblé ouais. sur une période assez courte, où là, en fait, on va faire exploser des marques. Mmh. Et donc, tu vois, eh bien, on va
avoir encore
un
différent.
Budget qu'on va attribuer à des créateurs de contenu. Donc, ça, c'est pas du tout le même process, c'est pas le même métier, quoi.
Ouais, carrément. Alors, pour ceux qui ne seraient pas trop sur LinkedIn Game, on va dire, et qui ne se rendent pas compte des opportunités que ça peut avoir, est-ce que tu peux nous parler un peu sans trahir de secret, quels sont un peu les objectifs et qu'est-ce que ça peut nous permettre de bénéficier, de justement développer comme ça sa présence et son influence sur cette plateforme?
Oh, c'est une question assez large. Il y a tellement de use cases différents.
Ouais.
Je vais te les donner peut-être par type de personne. Si vous êtes étudiant, ça vous permet de réseauter, de rencontrer des gens, de vous montrer visible auprès de votre futur employeur ou de vos futurs clients. Si vous voulez monter un business, ça permet aussi d'apprendre, puisque sur LinkedIn, vous avez du bon contenu, vous pouvez apprendre. Si vous êtes une boîte B2C, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de lever des fonds, de vous montrer visible auprès des investisseurs. Je pense à Flo de Frugis que j'embrasse, qui est basé sur qui va être mon associé, qui est une réussite géniale qu'on peut accompagner. Et tu vois, là, en fait, l'objectif était très clair. On n'allait jamais avoir de ROI sur un sujet, en fait, tu vois, ROI. Parce que la presta, par rapport à ce qu'elle coûte, je t'explique pas le nombre de smoothies qu'il faut vendre. Et là, l'idée, c'était simple, c'est construire sa marque personnelle, construire son réseau, se montrer auprès des invests,
ouais.
être à l'aise dans cet exercice. Donc ça peut être une bonne raison. Si vous avez un business, ça peut être l'occasion de trouver des clients, puisque LinkedIn aujourd'hui le réseau social numéro un en B2B. C'est là où il y a tous les décideurs, où il y a, tu vois, il y a pas beaucoup malheureusement de C-level, de grands groupes ou du CAC 40 ou de start-up, tu vois, de CEO de start-up encore trop sur des réseaux plus B2C comme TikTok ou Insta. Il y en a bien sûr, mais si vous voulez les trouver, les toucher, c'est notamment sur LinkedIn. Donc trouver du business, moi c'est 80% de l'acquisition de Linker. Tu vois, LinkedIn, c'est aussi construire votre marque employeur,
ouais.
recruter. 90% de mon équipe a été recrutée grâce à LinkedIn,
okay.
à mes posts ou aux offres. Donc, en fait, moi, c'est un vrai réseau, un vrai levier. Et ce levier, il a servi à Kudak avec Théo, il a servi à Linker avec moi-même, il a servi à Justine Hutto avec Respire,
ouais.
il a servi à Anthony Bourbon aussi avec Feed et maintenant Blast, enfin, à plein, en fait,
ouais.
tu vois. Et donc, le sujet, c'est vraiment que ça sert à tout le monde, mais avec des objectifs différents. Tu vois, si t'es une marque B2C, et que ton but, c'est de poster en tant que canal d'acquisition, je pense que c'est une erreur. Parce que la réalité, c'est que, tu vois, il va falloir en vendre quoi, des petits produits en B2C. Par contre, si c'est pour rassurer tes invests, pour développer ta marque employeur, pour faire en sorte que ton équipe soit motivée et engagée sur les sujets, parce que tu vois, toi, tu es la CEO, le CEO, tu représentes la boîte, ça va aussi motiver l'équipe. Vous voyez ce que ça peut vous apporter. Et donc pour tous ces sujets-là, ça peut être intéressant.
Ouais. Alors, toi qui as de l'expérience, est-ce que tu penses que ça serait intéressant pour ceux qui sont salariés d'être présents sur la plateforme ?
Complètement. On parle de plus en plus d'employé advocacy. Employé advocacy, excuse-moi pour mon accent anglais assez terrible. Tu vois, en fait, on se rend bien compte que pour tous les collaborateurs d'une boîte, ça leur permet tout à fait de développer leur marque personnelle. Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a peu de chances que vous restiez toute votre vie dans la même boîte. Et donc, développer votre marque personnelle, ça permet déjà de faire ruisseler votre visibilité sur votre boîte actuelle. Comme ça, ça fait plaisir. De construire, vous, votre marque et surtout de la construire pour vos futurs employeurs, vos futurs projets, voire même votre future boîte. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une logique de community-led growth. Et donc, la community-led growth, c'est l'idée de se dire je vais peut-être d'abord construire ma communauté en amont avec un média, puis faire levier sur cette communauté, ensuite, pourquoi pas, pour avoir un business. Donc, si vous êtes aujourd'hui salarié, collaborateur d'une boîte ou d'une start-up ou d'une asso ou que sais-je, c'est le moment de créer, vous, votre communauté, développer votre marque personnelle pour des projets perso demain, pour une autre boîte, ou pour juste se faire plaisir, développer votre notoriété.
Ouais, et puis même, je pense que pour la progression interne, ça peut quand même aussi être intéressant.
Il y a des gros enjeux politiques. Je ne donnerai pas de nom parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Mais nous, on a effectivement, on accompagne des gens et on a des sujets en call avec, tu vois, des C-level, de grosses boîtes où il y a un gros enjeu politique. Et tu vois, sur des boîtes qui peuvent être des comex ou ce genre de choses, je te laisse imaginer les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière de la prise de parole avec du contenu.
Ouais, c'est clair, j'imagine. Et donc, du coup, pour se projeter un peu, quelles sont les perspectives futures, aussi bien avec Linker que Kudak
Ouais, écoute, super intéressant. Je vais peut-être commencer par Linker et puis après, je pourrais te parler rapidement de Kudak. Ouais. Nous, sur Linker, là, l'enjeu, tu vois, on a fait un peu notre mini-révolution en janvier.
Ok.
On a rabattu plein de choses à plat, on s'est remis en question pour améliorer, pour être meilleur, tu vois, et je crois qu'on est sur la bonne voie.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça?
On a eu un sujet rétention.
Ouais.
Tu vois, sur Q4 2022, pour plusieurs raisons différentes. Et en fait, tu vois, moi, j'ai fait un gros travail sur, OK, pourquoi est-ce qu'un client reste chez nous? Parce qu'on a des clients qui restent là depuis le début. Pourquoi est-ce qu'un client ne reste pas chez nous? Quelles sont les trois raisons principales à chaque fois? C'est quoi les trois points communs qu'ont les clients qui restent le plus longtemps chez nous, en termes de persona? Et c'est quoi les trois clients, les trois red flags qu'on peut avoir sur les gens à chaque fois, ça fonctionne pas? J'en ai tiré des insights avec de la data, tu vois. C'était une grosse révolution. C'est-à-dire qu'enfin, parce que quand tu fais... alors, tu vois, on n'a pas une trop... Enfin, nous, on a eu une croissance où on est passé de 3000 euros de chiffre d'affaires, enfin, un peu plus. Ce que je faisais... ouais, c'est ça, entre 4 et 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à, en fait, plus de 80 000 euros mensuels en 10 mois, enfin, en 9 mois. Et dans l'agence, quand tu recrutes une personne par mois, etc., et que moi, j'étais sous l'eau de l'opérationnel... Je m'en rendais pas compte de plein de choses, tu vois. C'est très compliqué. Et en fait, j'ai tout mis à plat. J'ai appelé toute l'équipe. On s'est tous mis ensemble. On a appelé les clients. Et là, on a sorti les data clés, tu vois. Et là, c'était clair. C'était devant moi. J'ai mon petit tableau Excel. J'avais mes petits diagrammes. Et j'avais l'impression de comprendre mon business, tu vois.
Ouais.
Au bout d'un an. Je disais, ah ouais, en fait, je comprends. Je dis, ok. Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'en fait, par exemple, il y avait une certaine cible sur laquelle on s'acharnait sur nos contenus en prospection, etc. Alors qu'en fait, c'était pas celle avec laquelle on travaillait le mieux.
Ouais.
Et trucs un peu comme ça où je dis, mais oui, mais oui, j'ai compris des trucs. Et là-dessus, du coup, on a pu retravailler nos offres, retravailler certaines choses sur typiquement l'engagement, comment on fait fonctionner notre discours sales, le process avec les consultants, les rôles de chacun, etc. Et donc ça a été un travail qui a été fait sur janvier, qui est en train de porter ses fruits là, clairement déjà. Donc là, moi, l'ambition, c'est d'arriver rapidement et de dépasser ce stade des 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel.
Ouais.
Développer aussi toutes nos parties à côté, accélérer sur le département CM. Tu vois, accélérer aussi sur une partie prospection où j'ai envie qu'on aille. C'est pas notre expertise à la base, mais on le fait pour nous. On a commencé à le faire pour nos clients et on commence déjà à avoir des résultats.
Okay.
Là-dessus, j'aimerais qu'on accélère la partie influence.
Ouais.
Vraiment, où là, j'aimerais aussi qu'on accélère, ça fonctionne bien. Alix fait un énorme travail, c'est monstrueux. Mais voilà, je pense qu'on peut encore accélérer. Donc voilà, tu vois, faire tout en mieux.
Ouais.
Et puis en fait, tu vois, continuer à grossir. Trouver les bonnes personnes, structurer l'équipe, que tout le monde soit content, que tout le monde se sente bien, avancer. Donc ça, c'est pour Linker. Tu vois, voilà, que nos clients soient contents. C'est objectif numéro un. Et sur Kudak, c'est vrai que je pense que là, l'enjeu, c'est de continuer à grossir forcément sur chaque business unit, tu vois, qui peuvent composer le groupe, et continuer à essayer de lancer d'autres agences, à nous diversifier avec un playbook qu'on connaît. Parce que moi, tu vois, je n'ai pu en profiter de ce playbook, en fait. Qui sont les erreurs, tu vois, à éviter quand tu fais une agence. Ouais. On peut vraiment donner des tips et des conseils qui peuvent faire gagner beaucoup de temps sur le développement d'une agence, quel que soit le service en réalité.
Ouais, ça c'est assez marrant, c'est intéressant que tu parles du playbook. J'ai remarqué que bon, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à documenter leur travail et c'est normal, c'était pas forcément le cas et je trouve que les data et surtout dans les gros groupes, ça prend de plus en plus sa place. On s'est pas forcément rendu compte de la mine d'or sur laquelle on était assis, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui pour les agences, c'est vraiment quelque chose qu'on commence un peu dès le jour 1, quoi.
Ouais, c'est intéressant. En fait, tu vois, nous, c'est vrai que ce soit sur Linker et même sur Kudak, on a un mindset aussi d'aller vite, fort et de se concentrer sur le client. Bon, une fois que t'as dit ça. Et en fait, du coup, on n'a jamais vraiment tiré des insights data. Et aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, sur toutes nos décisions, on essaie toujours d'y apporter une data. En fait, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu sois sales. tu peux dire, écoutez, j'ai remarqué quelque chose, on a de plus en plus d'agents immobiliers qui nous contactent. Mmh. Je pense que vraiment là, on devrait faire un use case exprès pour mieux closer nos agents immobiliers. Donc ça, ça a été pendant un an chez Linker, de, on est dans l'à peu près. Mmh. Une fois que j'ai dit ça, ok, on... mais en fait, t'es pas précis. Alors que si tu dis, sur mes 10 derniers call sales, je te dis 10 parce que c'est 5, ouais, j'ai eu 5 agents immobiliers, okay, soit 50%. Sur ces 50%, il y en a 30% que j'ai emmené en R2, et donc je pense qu'on aurait pu en closer deux fois plus. Et ben en fait, là, tu mets tout de suite de la data, mmh, et t'es beaucoup plus précis sur toutes tes décisions.
Ouais.
Et ça, tu peux l'appliquer à tout, en fait.
Mmh.
Et tu vois, en fait, quand tu vois vraiment, j'ai sorti les points forts, les points faibles, que j'ai tac, 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 toutes les datas, ben en fait, ouais, ok, ça, faut plus qu'on le fasse, en fait. Mmh. Ça nous fait perdre de l'argent.
Ouais.
En fait, la data, ça te fait ressortir des choses que tu ne peux pas voir.
Mmh.
Et alors, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Nous, tu vois, on a une grosse... on suit beaucoup notre instinct, mais t'es obligé, en fait, à un moment donné. Mmh. Il faut mettre de la data sur les sujets, ça éclaire, tu comprends. Et en fait, c'est un outil, la data, tu vois. C'est pas, ouais, quelque chose, tu vois, c'est pas... Après, attention non plus, tu vois, je pense qu'honnêtement, sur la première année d'une agence, alors ça dépend quel type de projet. Tu vois, si tout de suite, tu montes un énorme truc et que tu vas aller très vite, très fort, il faut avoir les process très clairs et très clean, très carrés dès le départ.
Ouais.
Au début, quand tu pars de zéro, il faut aller vite, avancer.
Ouais, c'est sûr.
Tu vas tirer quoi comme inside? Ok, j'ai accompagné, tu vois, un inside sur 100 clients.
Oui, puis ouais, c'est ça.
Là, ce tu peux que tirer des inside, ouais, sur 10 call sales, tu vas pas tirer grand chose.
Mm.
Par contre, si on a dit 50, ça commence à.
Oui, il faut que ton dataset soit un minimum, bah ouais, conséquent pour tout pouvoir conjecturer dessus. Hein.
Sinon, t'es là, tu. Puis au début, c'est pas qu'au début,
ouais,
c'est un peu. Je sais pas, c'est très efficace, tu vois, en début d'aventure. De...
Ouais. Non, mais c'est clair. Alors, considérant Linker et même maintenant Kudak, puisque tu connais plutôt bien les process de facto, si tu pouvais tout recommencer from scratch, qu'est-ce que tu referais ou tu ne referais pas? Ouais.
C'est une bonne question. Je pense que là, du coup, je vais plus partir sur Linker.
Ouais, bien sûr.
Parce que je n'étais pas au début, du coup, de l'aventure Kudak. J'ai rejoint
un
late founder. Tu, ouais, vois. Écoute, j'ai essayé de réfléchir à ta question. Je sais ce que je peux te dire sur le sujet recrutement.
Mm-hmm.
Je pense que tout de suite, j'aurai une scorecard claire. Donc, une scorecard pour nos auditeurs. C'est les points clés sur lesquels je vais évaluer le candidat, la, mmh, candidate, avec laquelle je vais attribuer des points. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'éviter le mieux, c'est de recruter à l'instinct.
Mmh.
Ça, c'est, je crois, c'est le pire conseil qu'on m'ait donné.
Ouais.
Et c'est, mais vraiment le pire. En fait, à un moment donné, il y a l'instinct, le gut feeling, comment tu te sens avec la personne.
Ouais.
Et moi, je fonctionne trop comme ça, en fait.
Mmh.
Tu vois, si tu m'envoies la patate, qu'il y a l'œil qui brille, que je sens que tu as envie de tout casser, bah, en fait, tu vois, moi, je suis, ouais, un peu instinctif, tu vois, un peu bien nerveux, sûr, comme ça. En fait, non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu fais ta scorecard, tu as des points clés. Donc, par exemple, je peux te parler de ma scorecard Linker.
Ouais.
C'est sur 5 points. Il y a du coup un point sur le fit,
mm-hmm,
avec 3-4 questions.
Mmh. Ce qui reste important quand même.
Tu mets un point. Tu vas pas. Il y a un point sur le knowledge en copywriting,
okay,
c'est-à-dire les connaissances sur la rédaction. Est-ce que tu sais rédiger un bon post? Est-ce que tu as l'expérience là-dedans?
Mmh.
Ensuite, il y a un point sur LinkedIn. Est-ce, ouais, que tu connais l'environnement LinkedIn, soit des personnes à suivre, des fonctionnements de la plateforme, les codes.
Mmh.
Ensuite, il y a un point sur la partie business. Est-ce, ouais, que tu as de la culture business? Quel secteur tu comprends? Donc, tu vois, là-dessus, il y a des questions à chaque fois à poser. Et le dernier, sur la gestion client.
Okay.
Comment tu gères un client pas content? Est-ce que tu en as déjà eu? Comment, mmh, tu gères... Donc, tu vois, en fait, ça, c'est bien plus logique,
ouais,
structuré. Et à la fin, quand tu poses tes scorecards, en fait, ça permet de confirmer ou d'infirmer des choses, tu vois.
Mmh.
Tu vois, avant, t'as un candidat, tu vois, ah, je le sens pas trop. Mais en fait, là, tu vois, sur ta scorecard, il y a rien qui va.
Ouais.
Tu vois, il coche rien. Et ben, c'est pas grave. C'est peut-être qu'il est mené à faire autre chose. Ça sera peut-être pour des clients à lui, pour autre chose. Ça passera pas cette fois chez nous.
Mmh.
Mais au moins, tu l'as clairement. T'arrêtes d'être au feeling en permanence. Et aussi, des fois, j'ai eu des candidats, je me dis, tiens, celui-là ou celle-là, elle est exceptionnelle, il faut absolument que je la recrute. Et la scorecard le confirmait.
Ouais.
Et en plus, après, tu peux comparer les scorecards.
Mmh.
Tu vois? Et en fait, c'est pas à suivre bêtement. C'est pas, ah oui, il a 4,25, elle a 4,5. Non, c'est pas ça. Ce sont des outils, enfin, en tout cas, nous, moi, c'est comme ça que j'utilise. Ce sont des outils qui t'indiquent des ressentis que t'as eu, des sentiments, mmh, tu vois. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça mais game changer, tu vois. Ouais. Si je l'avais eu dès le départ, on aurait gagné un peu de temps.
Ah ben c'est clair. Justement, pour faire le parallèle un peu, donc avec le précédent épisode, donc Maxence Guillot de Why Me, justement, c'était le sujet dont on abordait. Ah ouais. Et justement, lui faisait au début au ressenti, à l'instinct. Il a fait la même conclusion que toi. Donc effectivement, très compliqué. Mais au-delà de ça, la plupart de mes invités m'ont tous fait le même constat que recruter, c'est dur. C'est normal parce que c'est les ressources qui te permettent après de faire exploser ou non un peu ton business, hein, parce que seul, tu fais pas grand-chose. Mais tu peux faire
ça
des choses.
Du
mais
business, ouais,
ça dépend du business.
Je connais des mecs qui sont deux, ils font un 1,5 million de CA annuel.
On va dire que voilà, quand tu veux grossir, quand tu veux avoir une équipe. Et pour autant, mais c'est vrai que d'avoir des clés comme ça, j'espère que ça servira à certaines personnes.
Ah, mais parce que vraiment, faites-le. Parce que ça, en fait, c'est une erreur de jeunesse. Mm. Mais vraiment, tu vois.
Ouais.
Et c'est marrant parce que je sais plus à qui je discutais de ça, mais tu sais, la manière la plus classique d'apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est de faire un truc, de le rater, de comprendre que tu l'as raté, pourquoi tu l'as raté, et de plus le faire ou de l'améliorer.
Mm.
Bon, t'avances, tu tombes, tu te lèves. Ça, c'est la manière de base.
Ouais.
Imagine si t'arrives à apprendre sans tomber.
Mm. Ça s'appelle du mentoring.
Ça s'appelle du mentoring, mais ça. Mais du coup, tu gagnes.
Ouais.
Mais tu... La personne, la CEO, le CEO, l'entrepreneur, l'entrepreneuse qui fait que ça et qui arrive à prendre à chaque fois les bons tips de partout et qui n'a pas besoin de tomber, te casser la tronche, d'avoir un mal, d'avoir le nez ensemble, de dire « Ok, je mets un truc et je repars. » Mais en fait, tu gagnes mais des années. Et ça, là-dessus, c'est vraiment une erreur de jeunesse. Quoi. Ça, c'est pas une question de... Tous les entrepreneurs, tout le monde le dit, quoi.
Ouais, c'est clair. Après, je pense que bah, parfois, tu tombes un peu dans le syndrome de il y a savoir et comprendre. Et même si tu le sais, bah, parfois, t'arrives.
Ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est complètement ça. Il y a des trucs, tu vois, pas besoin. Moi, je suis meilleur que les autres.
Non, frère, quand t'as pris le mur, ok, là, c'est bon, le mur était là.
Donc, ouais, sujet recrutement, ça, c'est clair. Bah, je crois que je commencerai plutôt sur LinkedIn. Hein.
Ouais.
Mais bon, ça, tu peux pas le savoir.
Ouais, c'est sûr.
J'ai fait partie, j'ai commencé moi à publier tous les jours, enfin, toutes les semaines et après tous les jours. Toutes les semaines en juin 2021. Donc tu vois, mais si tu peux jamais le savoir.
Ouais.
Et je serais allé plus vite dès le départ, j'aurais essayé, tu vois, d'aller taquiner Thibaut, il m'énerve avec ses 60 000 abonnés. Là. Théo, pareil, il m'énerve avec ses 50 000 abonnés, je sais pas combien ils ont.
Thibaut Louis, hein,
ouais, bien sûr, on l'embrasse, Thibaut. Tu vois, voilà, mais bon.
Ouais.
Après, c'est pas...
C'est quoi ton process un peu de création ?
Personnel ?
Ouais.
Alors, pendant très longtemps, ça a été assez, pardon, chaotique.
Ok.
Je n'étais pas aussi bien organisé que nous l'organisions pour nos clients. Parce qu'aussi, il faut dire quelque chose. D'ailleurs, je vais en écrire un post cette semaine là-dessus, je pense. C'est que moi, un post, ça me prend globalement entre 5 et 10 minutes à écrire. Clé en main, entre l'idée... Parce que, en fait, j'ai écrit 1000 posts en 3 mois.
Ouais.
Du coup, bah forcément, tu deviens un peu une machine, t'as tous les plans en tête, bam, 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 tu délivres. Donc, je sais pas si je suis un bon exemple, parce que tu vois, quand t'as fait que ça, écrire des posts pendant... Bah, tu deviens un peu une machine à écrire et du coup, t'es beaucoup plus entraîné. Sinon, moi, mon process, il est simple, je note toutes mes idées, tout ce qui m'intéresse. J'ai mes 3 piliers de contenu auxquels je me réfère et j'essaie de poster entre... Avant, je postais tous les jours, maintenant, j'ai un peu plus de mal. Et j'ai plus forcément besoin de poster autant, puisqu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressante. Quelque chose qui est intéressant ou intéressante, je sais pas, comme tu veux. C'est qu'au début, tu as besoin de poster pour être visible.
Ouais.
Et après, tu as surtout besoin de poster pour être crédible.
Mm.
Et donc, en fait, quand tu commences à être un peu visible, en fait, l'enjeu, c'est plus vraiment que tout le monde te voit.
Ouais.
C'est que vraiment les bonnes personnes te voient. Et que tu sois sur la crédibilité, tu vois. Donc, je poste un peu moins. Et c'est pour ça que pour tous nos clients, au début, tu vois, on leur dit, il faut poster le maximum possible. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire, hein, chez vous à la maison. Essayez de poster le maximum entre une fois par jour et une fois par semaine. Le plus sera le mieux. Mais adaptez-vous aussi à ce que vous pouvez faire. C'est rien de se mettre, OK, je veux poster tous les jours, sachant que vous n'allez jamais pouvoir le tenir.
Ouais. Je pense que ce qui manque au départ, c'est peut-être une idée de la structure, comment on structure son poste. Et souvent, c'est un peu le problème de la feuille blanche. Hein, tu sais, par quoi je commence ? Si t'as pas d'objectif, si... alors que si tu pars avec une structure, c'est déjà un peu plus facile de la...
Ça peut aider pour vraiment combattre, selon moi, hein, c'est comme mon avis, le syndrome de la feuille blanche. En fait, imagine que tu dis, OK, le mardi à 10h, je rédige mon post LinkedIn.
Ouais.
T'arrives devant à 10h. Et là, tu cherches des idées, de quoi je vais parler, ça, bah, ça c'est pas ouf, ok, machin. 10h30, t'as rien fait, fais chier, t'abandonnes. Bah en fait, le meilleur moyen d'éviter ça, pourquoi t'as ça en feuille blanche? C'est parce que t'as pas assez d'idées. Tu sais, moi, quand je me mets dans mon agenda mes 15 minutes par jour pour écrire mon poste, j'ai pas d'idées qui me viennent. Mais les idées, elles sont déjà là, en fait. Ouais. J'ai déjà noté dans mon téléphone, sur Messenger. Elles sont déjà dans mon content board, comme je l'appelle, notion, tu vois.
Ouais.
Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de prendre les bonnes notes avant, d'avoir une prise de notes efficace pour qu'au moment où toi, tu sois dans la rédaction, ah oui, j'avais ce sujet, ok, sympa, je vais penser à cet angle-là, avec ce ton-là, ok, top, on y va. Et donc, tout l'enjeu, en fait, pour battre ce syndrome de l'imposteur, c'est surtout faire une prise de note efficace et d'arriver avec des idées. Et après, au niveau du plan, c'est toujours à peu près la même chose. Alors, il y a plein de plans différents, il y a plein de structures différentes. On est en train de préparer une formation. Et donc, là-dedans, tu vois, ça fait 2 semaines que je suis à fond. J'ai tout repris, tu vois, depuis le départ, les différentes structures, etc. Le plus simple, moi, au début, tu vois, c'est forcément une bonne accroche, un développement, une conclusion. Aller au plus simple. Soyez simple et clair, évitez la complexité et publiez surtout. C'est ça le plus important au départ. Et puis le plus, en fait, on croit souvent qu'au début on a des idées, après on écrit, c'est pas vrai. Plus t'écris, plus t'écris, tu publies et après t'as les idées en fait.
Ouais.
Et tu te nourris de ça. Mais faut vraiment y aller et être régulier sur son contenu. Les idées viendront si vous vous entraînez bien.
Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as pu faire avec Linker ou depuis que vous êtes avec Kudak et que tu, du coup, referais différemment?
Ah ouais, de ouf. Bah déjà le recrutement. Ouais. Ça, je crois que tu l'as compris. Ouais, quand même, sur la partie contrat, finance.
Ouais.
Faites des contrats.
C'est mieux.
Faites des contrats. Soyez clean.
Ouais.
Tu vois...
comme pour l'un et comme pour l'autre.
En cas de problème, vous puissiez vous retourner. On a perdu un peu d'argent sur des impayés.
Ok.
Des gens que... Voilà. Après, c'est business comme ça, tu vois, mais... Bon, on n'est pas là dans un tribunal, mais faites des contrats, c'est bien. Ça évite les impayés et surtout, ça vous permet, en cas d'impayé, de pouvoir vous retourner. Et parce que quand t'as rien... T'as juste un devis signé, un truc, ça vaut pas grand chose. Et quand t'as même pas de devis signé, juste un mail récapitulatif de la presta, ce qu'on faisait au départ parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper ou qu'on ne prenait pas le temps, je prends responsabilité du sujet. Non, ouais, faites des contrats, ça peut être bien, surtout à un certain niveau de business. Faites-le dès le départ. Il y a des un peu, je crois qu'il y a des tu vois, des templates déjà prêts de contrats, etc. Faites redire par une assistante juridique, des trucs comme Legal Place, etc. ou un assistant juridique, ça fonctionne très bien. Ça nous aurait évité de perdre un peu de trésor. Ou en tout cas, ça nous aurait donné un peu d'appui, tu vois. Et le plus ça va, tu vois, au début, c'est pour 500 balles, c'est pour 5000 balles. Et quand on est sur des dizaines de milliers d'euros, faites un contrat. Faites un contrat, c'est mieux. Donc voilà, ça, je pense, c'est important. Et sinon, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, les erreurs vraiment que j'ai pu faire? C'est toujours difficile parce que les erreurs, je veux dire un truc, tu t'en rends compte quand tu te les prends dans la tronche.
Ouais.
Tu vois, quand tu marches dans la rue tranquillement, t'es là un mardi, tu te rends pas compte qu'en fait, t'as fait une énorme connerie que ça va te sauter à la tronche.
Ouais, là, on se place un peu du côté du mentoring. Donc
Ouais, bien sûr. Sinon, non, voilà, je crois que c'est un peu les quelques choses un peu clés. Et sinon, il y a des choses qui n'étaient pas trop évitables.
Ouais.
Des choses, par exemple sur la formation continue, il faut que toute ton équipe progresse, il faut que ton discours s'améliore en sales, il faut que tu comprennes certaines choses. Les constats qu'on a pu tirer après un an, en janvier, on a amélioré plein de choses, bon, en fait tu peux pas les faire tant que t'as pas la data, tant que t'as pas les éléments, et tant que tu t'es pas pris 2-3 claques, tu te dis ok merde, c'est quoi le problème là? Et donc ouais, non, ça serait vraiment ça. Et écoute, je réfléchis à d'autres choses.
Ouais.
Mais
et à l'inverse, des réussites que vous avez pu avoir, une bonne formule qui a fonctionné et que tu remettrais en place?
Alors ça, c'est le moment humilité, bien sûr.
Toujours.
C'est le moment humilité. Non, je crois que quelque chose qui fonctionne bien au départ, c'est de pas trop se poser de questions.
Ouais.
C'est un peu
c'est dur quand même, c'est un comme peu conseil.
Ouais, en fait c'est un peu bourrin ce que je vais dire, mais au début faut être un peu bourrin.
Ouais.
Faut pas trop se poser de questions, faut avancer, faut être discipliné et rigoureux. Faut suivre le plan en fait. Je fais mes posts, je trouve mes clients, je délivre, tac tac tac, et faut se concentrer, très concentré dès le départ, focus. Ça, c'est important. Hein, et d'être un peu cet aspect un peu bourrin. De pas trop se poser de questions sur « Ah, mais si, mais pourquoi ?» Quelque chose que très rapidement, et je dis ça un jour, c'est un petit concept que j'ai inventé, c'est le PPPT. Okay. C'est le problème pour plus tard.
Ouais.
C'est par exemple, tu vois, si tu viens me voir et que tu me dis « Écoute, là, je viens de faire mon podcast, je vais lancer mon business, je fais n'importe quoi de vidéo, pour mon premier recrutement, non. » Ça, c'est un problème pour plus tard. Tu verras quand tu feras entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires, que tu te paieras bien, que tu en vivras bien et que tu voudras accélérer.
Ouais.
Donc, quelque chose qui est bien, c'est de se concentrer sur son opportunité numéro une, d'être très focus. Il y a plein de choses que je fais pas et que j'ai refusé parce que le focus, c'est un élément décisif dans la réussite de ta boîte. Donc, un peu bourrin au départ, mettre autour ton focus, c'est quoi mon action numéro une qui va faire que j'ai de la valeur, okay, est-ce que c'est recruter, est-ce que c'est améliorer ma presta, modifier mon offre, important ça, le problème numéro un ou l'opportunité numéro une. La troisième chose, ça a été en fait de reprendre un peu de hauteur. Ça, je pense que c'est bien, c'est important. Tu peux pas, toi, en tant que dirigeant, en tant que personne qui, tu peux pas te manger l'opérationnel au quotidien, tu vois, sans lever la tête.
Ouais.
T'as besoin à un moment donné de... Franchement, si on n'avait pas fait ça collectivement, il n'avait pas sorti un peu la tête de tout ça et d'essayer de tirer des enseignements, 2023, peut-être qu'on est stagné, tu vois. Alors, tu vas me dire, on est en février, là, genre on enregistre, c'est très tôt pour parler de ça. Et je suis convaincu que ce qu'on a fait, c'était vital, tu vois. Et si je ne l'avais pas fait, ça aurait été très problématique.
Ouais.
Vraiment. Et donc, prendre, être bourrin au début et de prendre la bonne hauteur quand ça peut être important de le faire, que ce soit voilà, hein, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 peut-être à 22, ça dépend, c'est à vous de comprendre les moments clés pour le faire, quoi.
Ouais, alors c'est intéressant cet aspect un peu oisiveté que tu as abordé. Alors c'est sûr qu'en plus, quand tu as ton projet bien défini, bon, bah, c'est important de se concentrer sur ce qui se marche vraiment et puis on verra un peu les problèmes pour plus tard. Je pense que c'est un peu plus compliqué quand justement tu es encore dans ta phase de déterminisme, que tu n'as pas encore fixé ce sur quoi tu allais aller. Tu es vite tenté d'avoir un peu plusieurs side projects et de te disperser, tu vois, de pas canaliser un peu ton... Bah, ton travail finalement et on peut être tenté de faire ça parce que bon, on se dit sur quel cheval un peu miser, quoi. Donc
c'est intéressant, il y a plusieurs modèles, hein. Tu sais, nous agence croissance, voilà, on essaie d'accélérer, tu vois, recruter, etc. C'est pas un modèle, enfin tu vois, il y a plein de modèles. Tu peux lever des fonds avec une startup, tu peux effectivement monter une agence dans le service, tu peux rester freelance et facturer très cher une activité, ou facturer cher, ou facturer pas cher, en tout cas facturer une activité et rester là-dessus et bien en vivre. Tu peux aussi, ça c'est un peu tout ce qui est Peter Thiel, je crois, tu vois, dans la mouvance vraiment soloprenariat, où je vais effectivement essayer de lancer plusieurs projets, plusieurs side projects, où à chaque fois je vais essayer de lancer, tu vois, j'en sais rien moi, un produit SaaS, un service différent, et d'allouer 5 à 10% de mon temps à chaque fois, ou alors je vais me focus sur un seul secteur, un seul sujet sur lequel je vais mettre 100% de mon focus. Moi, ce que je recommande quand même, c'est de regarder un, ce qui nous plaît profondément, hein, parce que si t'es pas passionné, si tu prends ma direction qui est agence, croissance, recrutement, mais si on n'a pas une, toi, voilà, il y a des gens qui font 10 fois, 50 fois ce qu'on fait chez Linker, tu vois, en fait, à un moment donné, si t'es pas passionné, ne t'excite pas vraiment. Je suis un passionné d'entrepreneuriat, j'adore les gens profondément. Mon business, c'est de parler avec des gens qui me racontent des histoires. Tu vois, moi je suis là, je les écris sur LinkedIn, je suis trop content. Tu vois, j'ai monté une équipe, après on fait tout ça, c'est génial.
Ouais.
À un moment donné, si t'es pas passionné, quand tu fais ça beaucoup de temps par semaine, t'arrêtes. Tu te casses, tu fais autre chose. Ou alors, tu redimensionnes le projet. Donc, trouvez des choses qui vous passionnent vraiment et trouvez des choses où vous avez des skills. Non, mais j'ai toujours aimé écrire, en fait.
Okay.
J'ai toujours aimé networker. Je suis quelqu'un d'assez extraverti, qui parle beaucoup. J'essaye toujours, c'est un travail que je fais depuis des années, d'apprendre à fermer ma gueule.
Tu vois, c'est pas évident. Alors,
c'est pas le sujet du podcast. Mais tu vois, c'est, aujourd'hui, mon métier, c'est de faire parler les gens et de poser les bonnes questions.
Ouais.
Et donc, c'est pas de parler, tu vois, pendant 30 minutes. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que faut aussi des choses qui vous correspondent. Moi, tu vois, moi, j'aimais bien écrire. Et donc, j'ai toujours écrit, que ce soit Tu vois, des chansons, du roman, j'adorais les articles en sciences politiques, tu vois, en école, tout ça, les dissertes, tu vois, j'adorais ça et c'était quelque chose que je maîtrisais plutôt bien. J'adorais être en tant qu'extraverti, un peu, tu vois, pouvoir partager mon aventure.
Ouais.
Et donc, pour LinkedIn, c'était plutôt cool.
C'est clair.
Et j'adorais réseauter, j'adorais le business. Donc, en fait, tu vois qu'en fait, il y a un peu les trois choses un peu clés. Pour mon business, c'est plutôt cool. J'aurais jamais pu monter un business, tu vois, une fintech. C'est impossible. Et donc, il faut regarder vos points forts, en fait. Moi, j'ai une appétence pour rédiger des choses, pour poser des questions et m'intéresser. Et donc, regarde. C'est un conseil qui peut servir à n'importe qui. Et donc, à tout le monde, qui est regardez ce qui vous plaît vraiment et là où vous êtes fort.
Ouais.
Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas fort et que vous voulez prendre la direction de « je veux aller vite, croître », etc., ça va être difficile, sauf si vous montez très vite en compétences.
Ouais.
Mais il faut être solide, quoi.
Ouais. Puis il y aura déjà du monde qui vous attendra.
Par exemple, et donc après, voilà. Mais c'est un sujet, en fait, c'est plus simple. Si tu aimes ce que tu fais profondément, que ça te parle, et qu'en plus, tu as déjà un peu des hard skills dans ce sujet, bah, c'est cool, quoi.
Ouais.
Tu peux aller plus vite, prendre du plaisir.
C'est clair. Génial. Mathieu, merci beaucoup.
Écoute, je t'en prie.
C'était super cool. Où est-ce qu'on peut
merci
te suivre,
à toi pour
te retrouver?
Écoutez, vous pouvez me suivre sur LinkedIn,
ouais.
Bien sûr. Mathieu Pimore, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous désabonner si vous n'en pouvez plus de mon contenu. Et pour tous ceux qui s'abonnent, je vous remercie. Ma petite newsletter sur Substack, j'essaie, n'hésitez pas. Ça s'appelle Pimps and CEOs. J'essaie de partager justement mes échanges que j'ai avec des CEOs.
Ouais.
Et donc ça, il y a aussi des petits apprentissages business qui peuvent être cool. Et donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation, c'était top.
Merci à toi pour ton temps. Et puis peut-être plus tard pour un autre épisode
tout
avec peut-être tes cofondateurs,
écoute,
Théo,
avec grand plaisir.
On verra ça.
On va leur en parler.
Ouais, grave, super.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut.